dis, Mimi, tu viens à la piscine avec moi ?
Ah non, je peux pas, j'ai agité du local.
Et c'est sur l'autre radio.
Est-ce que vous avez eu froid ce matin ? Est-ce que certains sont restés couchés, feignant la maladie automnale alors qu'il s'agissait surtout d'une envie de prolonger le week-end ou de ne pas quitter celui ou celle qui profite de l'oreiller d'à côté ? Oui, bah si tu l'as fait, t'as raison, t'as été plus malin que les autres. Bon, eh bien, moi, aujourd'hui, je suis bien là, je n'ai pas fait l'école buissonnière et je vous retrouve. J'aime ça, on se raconte pas d'histoire. Bienvenue à vous, dans l'agité du local, et si je suis là, c'est surtout pour vous faire profiter d'un entretien que nous partage Christophe Feuillet avec Gullivan, membre fondateur du groupe Mes Souliers sont Rouges, que l'on retrouvera le 17 octobre sur la scène des Angenoises à Bonchamp. L'émission commencera par ce très beau moment et elle se poursuivra dans le sud Mayenne, plus précisément au restaurant Racine, pour retrouver Thomas et Jérôme avec qui l'on échangeait il y a à peu près un an avant l'ouverture du restaurant au sein de l'enceinte du Carré à Château-Gontier. Et voilà, le lundi rime aussi maintenant avec la revue de presse du Haut-Anjou que l'on retrouvera juste après ce premier entretien. Mais surtout, l'émission se termine avec Frédéric Benoît de la Ligue des droits de l'homme qui continue aujourd'hui son abécédaire avec la lettre I pour le mot identité. Alors restez bien avec nous jusqu'au bout, ça sera un très très beau moment. Je suis Margot, mais tout de suite je laisse la place à Christophe Feuillet et Gullivan. Écoutez.
Bonjour Gullivan.
Bonjour.
Vous êtes un des membres fondateurs du groupe Mes Souliers sont Rouges. Vous avez débuté votre carrière en 1991 dans un bar de Caen avec Manu et également Jimmy. Ensemble, vous avez fondé Mes Souliers sont Rouges, mais j'imagine qu'avant cela, vous aviez une vie. Alors racontez-nous là un petit peu où et quand êtes-vous né, où avez-vous grandi, quel type d'enfant et d'adolescent étiez-vous ?
Oh, punaise. Merci Christophe pour toutes ces questions. je suis né en fait à Saint-Germain-en-Laye, c'est une ville que je ne connais pas du tout. Mes parents étaient étudiants à l'époque et du coup sont venus s'installer à Caen lorsque j'avais un an. J'ai grandi dans la ville de Caen et ses alentours. J'y ai étudié aussi la biologie, je voulais être pisciculteur et puis je faisais de la musique en parallèle. J'étais un adolescent plutôt calme, on va dire. Un attrait pour la nature, pour la pêche notamment, puisque voilà, je voulais devenir pisciculteur. Pour la musique aussi, j'ai jamais imaginé en faire mon métier, en tout cas quand j'étais enfant. Mais j'aimais beaucoup jouer de la guitare. Voilà, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Je chantonnais seul, plutôt seul. Voilà. Et puis, voilà, on va dire des petits flashs. Ouais, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Je suis allé en colonie de vacances, en classe de neige. Et puis là, il y a le papa d'un des camarades de classe qui avait amené sa guitare. Et puis le soir, il nous faisait quelques veillées. Et ça m'a marqué. En fait, le fait de pouvoir s'accompagner avec une guitare, chose que je ne savais pas faire. Je commençais la guitare, mais je faisais de la guitare classique. Et puis c'est un peu plus tard, en fait, via l'animation, que je me suis mis à gratter, on va dire, à gratter, à faire des accords, à me servir d'un médiator, autre chose que de mes doigts, en fait, pour faire de la guitare, puisque on utilise surtout les doigts, en fait, en guitare classique. Et puis voilà, à s'accompagner, à chanter des chansons pour les enfants que j'allais animer, en fait, lors des colonies de vacances ou des centres aérés. Et c'est là qu'on s'est croisé avec Manu et Jimmy. C'est dans le cadre de l'animation, en fait. Donc, nous étions déjà animateurs, voire formateurs pour les deux autres. Ça n'était pas mon cas, mais ils étaient formateurs d'animateurs. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés et qu'on a pu faire notre premier concert. Donc, on chantait déjà à trois voix. On savait chanter en polyphonie dès le premier concert. Et on a appris, on va dire, à être musicien petit à petit et en faire notre métier. Voilà.
Et vous avez partiellement donc répondu effectivement à la question suivante. Dans ce bar de Normandie, est-ce que vous vous souvenez du déclic ? Est-ce que c'était une envie mûrie, un hasard ou un challenge que l'on se lance autour d'une bonne bière irlandaise ?
J'avais déjà intégré en fait un collectif qui s'appelle Mandarine, qui fait des balles pour enfants, quelques mois auparavant. Et donc, la proposition de faire ce concert le soir du Beaujolais dans un bar étudiant, ça m'a plu tout de suite. Un déclic, oui. Un déclic, non pas pour en faire son métier, mais et je dirais pas une forme d'ivresse, parce que là, c'était la soirée de Beaujolais, donc ça va être mal interprété. Mais il y a eu un déclic, en tout cas, d'être sur une scène face à un public et de pouvoir le captiver. On va dire que c'est le propre de l'animateur, c'est de pouvoir mettre de l'âme et animer, mettre de l'âme auprès de personnes en face, un auditoire. On a réussi ce challenge, en effet, et ça a décollé justement sur la chanson qui a porté après le... qui a fait que c'est devenu le nom du groupe. C'est « Mes souliers sont rouges ». En fait, c'est la chanson « Les souliers rouges » et c'est le début du refrain. Et cette chanson-là a véritablement, on va dire, mis le feu aux poudres dans le bar. On était étonnés, parce que forcément, nous, on la connaissait. Mais voilà, on a vu que celle-ci ressortait vraiment du lot et a mis le feu au bar. Alors, le reste du répertoire était très bien aussi, mais là, il y a eu vraiment un déclic, quelque chose de spécial. Et voilà où on en est.
Et depuis vos premiers albums, Gullivan, hein, dont le fameux Tape la galoche, qui demeure à ce jour le plus vendu, vous avez traversé des inspirations différentes. Vous êtes passé de la chanson traditionnelle québécoise à la chanson française. Même s'il y a toujours un ADN évident dans votre groupe, vous avez évolué comment, au gré de vos goûts, des nouvelles rencontres ?
Les deux, c'est-à-dire que... on a bientôt 33 ans, là. Du coup, là, le soir du Beaujolais, j'insiste un peu, mais le soir du Beaujolais, bientôt, nous aurons 33 ans. Au bout de ces 33 ans, il y a eu un peu moins de 15 musiciens qui ont fait partie de l'aventure. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est comme ça que ça marche, un groupe, en général. Justement, quand il n'y a pas vraiment de leader, c'est ça qui est chouette, c'est que eh bien il y a des mouvances, en fait, des mouvances et de nouvelles influences qui arrivent et qui sont les bienvenues, et ça forge une autre ça donne une autre forme à notre musique, d'autres envies au groupe qui se laissent plus ou moins influencer, et c'est souhaitable, enfin en tout cas c'est aussi, ça nous apprend la vie, c'est en continuelle évolution. Dans notre musique, en effet, il y a toujours une base de musique québécoise, irlandaise, cajun, c'est de la musique conviviale, c'est de la musique de tradition orale qui se partage sur plusieurs générations. Donc ça, c'est vraiment notre ADN et notre base. Et autour de ça, on a pu, d'ailleurs, dès le premier album, mettre quelques compositions originales. Et on le fait toujours, même si c'est plus présent d'ailleurs sur le dernier album, Faut se mêler. Il y a toujours eu des compositions dans le groupe et dans l'histoire du groupe, mais la base ADN, c'est la musique de tradition orale.
Des compositions originales qu'on aura le plaisir d'écouter donc le jeudi 17 octobre aux Angenoises de Bonchamp. Gullivan, en 2004, après 15 ans de succès internationaux, vous décidez de quitter le groupe. Vous avez alors dit que c'était parce que vous aviez envie de vous consacrer à vos carrières personnelles respectives, mais vous avez également indiqué que la vie de votre groupe était maillée d'histoires humaines parfois compliquées. Qu'est-ce qui a le plus joué dans votre décision, vous ou les autres ?
Les deux. Je dis encore les deux. Christophe, parce que là, sur ce point-là, en 2004, on arrive déjà à quelques années quand même d'existence du groupe. Je suis le dernier fondateur. On arrive dans une grosse maison de disques et je me trouve en désaccord artistique avec le reste du groupe, qui est une démocratie à l'époque, et en désaccord avec le reste de la démocratie au niveau des accords, on va dire, du business, quoi, avec la maison de disques. Voilà. Je suis en désaccord avec le groupe sur ces deux points-là. Donc, je respecte la démocratie et je la quitte, même si je suis le dernier fondateur. Voilà, je respecte le choix du groupe et je ne m'en remets pas au choix du groupe, mais je préfère le quitter.
Et c'est tout à votre honneur. Quelques années après, Gullivan, vous décidez de vous reformer à l'occasion d'un concert au Zénith de Caen, encore cette ville qui vous avait vu naître. que c'était un remariage d'envie, de maturité, ou à l'instar des frères Gallagher d'Oasis, vous êtes dit, bon, après l'orage, le beau temps, puis de toute façon, il va bien falloir payer les impôts.
Alors, si on pouvait en payer plus, ce serait bien. Si on pouvait en payer ou en payer plus, d'ailleurs, ce serait bien. Dans notre histoire, on n'a jamais été bien riche, sauf, allez, on va dire, on a bien gagné notre vie quand on était sur la maison de disques au tout début, pendant deux années. Donc sur 33 ans, ça va faire un peu short. Voilà, je lance un appel aux dons. La reformation, en fait, ça a été une demande d'un ami commun, dans l'animation d'ailleurs. Patrice Mesch, le directeur de l'Espace Tandem à Caen, c'est la plus grosse MJC cannaise. On le connaît, on s'est rencontrés tous dans l'animation, et Patrice aussi. C'était d'ailleurs mon directeur de stage de base lorsque j'avais 17 ans. Et aujourd'hui, il est toujours là, il me soutient toujours dans mon label. Patrice nous propose de nous reformer, de faire le premier album, de refaire un concert pour les 10 ans de la structure, pour fêter les 10 ans de l'Espace Tandem. On dit tous oui, il nous invite à la brasserie à côté de l'Espace Tandem, on dit oui. J'appelle Michel, qui est retraité à Carcassonne. Je dis, Michel, est-ce que tu veux bien qu'on revienne sur scène pour faire un concert unique? Et in fine, ça s'est terminé au Zénith. En effet, on pensait faire qu'un concert. Le Zénith était complet, on a le record de jauge depuis le début de ce Zénith, tout artiste confondu, international, national. Donc c'est incroyable, une déclaration d'amour du public. Qui nous fait prendre une décision, c'est allez, on y retourne, et puis on a tourné comme ça pendant 5 ans. Voilà, on a tourné comme ça pendant 5 ans, mais on n'a pas réussi. En effet, on prend les mêmes asticots dont je suis, et les mêmes têtes de mule dont je suis, et on se retrouve avec parfois les mêmes problèmes. En tout cas, on a pu rester 5 ans ensemble retourner et à prendre plaisir, et puis sagement on s'est dit que on n'arrivait pas à faire d'album, de nouvel album, alors qu'on allait arrêter l'aventure à ce moment-là.
5 ans, donc c'était un vrai retour aux sources, c'était d'ailleurs le nom de votre tournée. Ensuite, nouveau changement donc en 2018. Quels sont aujourd'hui les membres du groupe que le public aura le plaisir d'apprécier le jeudi 17 octobre, et quels sont leurs instruments et spécialités?
Alors, aujourd'hui, à l'accordéon, il y a Simon Leterrier, qui se trouve être aussi un podorythmicien. Il pratique comme moi la podorythmie. Il tape des pieds à la québécoise. Il joue de la guitare, du bouzouki, de l'harmonica. Ensuite, il y a Eflam. Eflam est guitariste. Il joue aussi du banjo-lélé. Ensuite, il y a Jackie, qui joue des flûtes irlandaises, whistle, du Ullion Pipe, qui est le pipe, la cornemuse irlandaise. Il est violoniste. Ensuite, il y a Denis, qui se trouve à la contrebasse et au tom basse. Et ensuite, moi-même, Gullivan, à la mandoline, guitare, podorythmie. Et nous avons la particularité de tous chanter. Et nous faisons beaucoup de polyphonie, je l'ai dit tout à l'heure, depuis notre départ. Voilà. Et donc, sur ce concert-là, il me semble qu'il y a un musicien qui sera remplacé. Et je crois que c'est le guitariste. Et il y aura peut-être c'est certain d'ailleurs, le contrebassiste, Denis, qui hélas, pour l'instant, est en convalescence.
Et on lui souhaite un prompt rétablissement. Mes souliers sont rouges, donc c'est le jeudi 17 octobre, 20h30, c'est aux Angedoises, à Bonchamp. Gullivan, vous venez d'évoquer votre marque de fabrique, c'est la podorythmie. C'est une technique de percussion qui est inspirée, entre autres, des Acadiens, qui forment une ethnie qui vit principalement en Amérique du Nord. Comment on maîtrise cet art de la podorythmie?
Moi, je l'ai appris, en fait, sur un archipel, les îles de la Madeleine, dans l'embouchure du Saint-Laurent. J'étais dans un autre groupe en tournée, en fait, sur ces îles. C'était un échange d'ailleurs avec notre île en Normandie, l'île Tatillou. J'ai réappris en fait à taper des pieds. La première fois, nous avions vu Michel Bordelot de la Bottine Souriante. C'était nos maîtres et qui sont devenus nos copains. On enregistrait d'ailleurs le deuxième album chez eux. On a vu Michel Bordelot taper des pieds. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de vidéo. On avait juste un 33 tours, on entendait tagadac, 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 on se demandait ce que c'était. Mais là, on a vu Saint-Malo, Michel Bordelot tapait des pieds pendant une heure et demie, deux heures, et jouait en même temps du violon ou de la mandoline ou de la guitare et chantait. Ça nous a suggéré, on s'y est mis comme on a pu. Et ensuite, donc sur ces îles de la Madeleine, j'ai réappris totalement, j'ai effacé mon disque dur, on pourrait dire, avec Alain Lamontagne, et c'est lui qui a inventé le mot, podorythmie, pour définir cet art de taper des pieds des Québécois. Et donc, on imite le galop du cheval et on tape tigalo, tigalo, tigalo. Voilà, je suis appelé assez régulièrement pour faire des formations sur notamment la podorythmie, mais aussi la turlute québécoise et la chanson à répondre. Et donc, j'apprends exactement comme Alain Lamontagne m'a appris. Il est considéré comme le maître de la discipline.
Et alors, sans vous manquer de respect, Gullivan, vous venez de prononcer le mot « la turlute », c'est quoi ?
La turlute, c'est une manière de chanter au Québec avec la bouche et la langue. C'est pour turluter. Quand on dit au Québec, je vais vous faire une petite turlute. Ça fait on turlute des airs. Et apparemment, ce serait venu. C'est une forme de résistance des Québécois pour en fait imiter les instruments de musique et imiter, en tout cas, en attendant d'avoir de pouvoir reconstruire un instrument puisque ils ont été brûlés par les Anglais. Pour éradiquer la culture francophone. Et donc, en cachette, avant de pouvoir reconstruire un instrument et de ne pas perdre les airs puisqu'ils n'avaient pas de partition, eh bien, ils se remémoraient les airs en les turlutant.
Merci pour ces explications très claires, Gullivan. Alors, nous évoquions en début d'interview ce bar de Caen où une partie de l'aventure a commencé. Tavernier, mon ami, qu'as-tu fait dans ta vie ? J'avais à mon comptoir des gens qui savaient boire. Le temps s'en va, mais les temps ont changé. On ne boit que pour oublier. J'ai quitté mon bistrot. Ces paroles sont évidemment extraites de Maraîcher, mon ami. Le bistrot, oui. Le bistrot, c'est vraiment fini pour vous ? Je me base plutôt sur les paroles de « Non, que je l'aime donc ».
Non, c'est pas fini. On aime de temps en temps, en fait, dans le groupe, refaire une petite... On appelle ça la tournée des copains. Et en général, on choisit des bars avec des tenancières, des tenanciers qu'on apprécie. Et on aime retourner de temps en temps dans les bars sur une période de 5 jours d'affilée. Et voilà. Et puis chacun dans ses diverses formations joue encore dans les bars. C'est un endroit de lien. C'est un endroit important. Ça fait partie de notre culture dans notre pays. Il y a d'autres pays qui ont aussi ces lieux de rapprochement et de partage. Je suis jamais allé en Irlande, hélas, mais je sais qu'il y a plusieurs membres du groupe qui sont allés en Irlande. Et apparemment, c'est assez magique de voir des lieux comme ça où toutes les générations se retrouvent. Et aussi pour jouer de la musique, pour chanter d'ailleurs, mais pas que, pour se retrouver après le travail. Donc voilà, c'est aussi pour nous toujours un endroit de rencontre et de partage.
Avant-dernière question, vos souliers sont rouges, Gullivan. Sont-ils rouges tout excités comme l'amour, rouges violents comme l'anarchie ou rouges sang comme la planète ?
Pour moi, l'anarchie n'a rien de violente. Rouge à force de, on disait, à force de courir, les filles, on a les pieds qui saignent. Ça, c'est ce qu'on disait quand on avait 20 ans. Je dirais rouge de plaisir. Rouge de plaisir, rouge de cœur. Voilà. Je tenterai plutôt la couleur rouge pour le cœur et le partage. C'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui, c'est que le public, sur plusieurs générations, vient nous voir, vient encore nous voir et toujours. Il est renouvelé. Il y a plusieurs générations qui viennent et ça, c'est vraiment magique. Et depuis que nous avons repris il y a 7 ans, cet engouement va de manière, je dirais pas exponentielle, mais augmente toujours. Voilà, on a un public qui augmente encore. C'est vraiment appréciable. Et on arrive justement à sortir des albums en faisant des levées de fonds sur des plateformes Internet. Et on voit qu'on a un public de plus en plus présent puisque les deux dernières levées de fonds ont été formidables et ont permis en grande partie de financer les albums.
Et le public de la Mayenne ne fera pas exception. Il sera naturellement présent et nombreux le jeudi 17 octobre à 20h30 aux Angenoises. Dernière question, Gullivan, la question que je ne vous ai pas posée et que vous auriez aimé que je vous pose.
Est-ce qu'on est bien reparti pour 50 ans ?
C'est tout le bien qu'on vous souhaite. Merci Gullivan.
Merci. Merci Christophe. Au plaisir.
Faut se mêler, se mêler. Faut se mêler des choses. Faut se mêler, se mêler. Se mêler pour avancer. Faut se mêler, se mêler. Faut se mêler des choses. Faut se mêler, se mêler. Se mêler pour avancer.
C'est vrai hier comme aujourd'hui, soit pour un non, soit pour un oui.
Soit pour un non, soit pour un oui.
On se retrouve avec un crédit, pour des babioles et un logis.
Pour des babioles et un logis.
Si l'on trouve chaussures à notre pied, on reste les plus mal chaussés.
On reste les plus mal chaussés. Faut se mêler, se mêler. Faut se mêler des choses. Faut se mêler, se mêler. Se mêler pour avancer.
Les assureurs et les banquiers ont la main mise sur nos deniers.
Ont la main mise sur nos deniers.
Paraît que c'est la règle du jeu. Si t'es petit, tu bosses pour eux.
Si t'es petit, tu bosses pour eux.
Criblés de dettes dans nos baskets. Et si l'on trouve chaussures à notre pied, on reste les plus mal chaussés.
On reste les plus mal chaussés. Faut se mêler, se mêler. Faut se mêler des choses. Faut se mêler, se mêler. Se mêler pour avancer.
Tous les jours on va acheter, de quoi pouvoir se rassasier.
De quoi pouvoir se rassasier.
Des aliments si transformés, qu'on est inquiet pour notre santé.
Qu'on est inquiet pour notre santé.
On pourrit d'angoisse dans nos godasses, crivés de dettes dans nos baskets.
Si l'on trouve chaussures à nos pieds,
on reste les plus mal chaussés.
On reste les plus mal chaussés. Faut se mêler, se mêler. Faut se mêler des choses. Faut se mêler, se mêler. Se mêler pour avancer.
On nous asperge de nitrate, de pesticides, de glyphosate.
De pesticides, de glyphosate.
Et la société d'Artempion vend le remède et le poison.
Vend le remède et le poison.
Tous infectés dans nos souliers, bourrés d'angoisse dans nos connasses.
Criblés de dettes dans nos baskets. Si l'on trouve chaussures à notre pied,
on reste les plus mal chaussés.
On reste les plus mal chaussés. Faut se mêler, se mêler. Faut se mêler des choses. Faut se mêler, se mêler. Se mêler pour avancer.
Ça sert à quoi de vivre plus longtemps, si c'est du temps devant l'écran.
Si c'est du temps devant l'écran.
On aurait plus, c'est le danger. Loboto, lobo, lobotomisé.
Loboto, lobo, lobotomisé.
On est tous à côté de nos pompes, tous affectés dans nos souliers.
Bourrés d'angoisse dans nos godasses, criblés de dettes dans nos baskets. Si l'on trouve chaussures à nos pieds,
on reste les plus mal chaussés.
On reste les plus mal chaussés. Faut se mêler, se mêler. Faut se mêler des choses. Faut se mêler, se mêler. Se mêler pour avancer. Faut se mêler, se mêler. Faut se mêler des choses. Faut se mêler, se mêler. Se mêler pour avancer.
Faut se mêler sans s'en mêler. Les lacets, lacets, ces choses sans se lasser. Des choses se hisser de la mêlée. C'est faute des chasses qu'on salisse. Se mêler, c'est qu'on se mêle, c'est oui.
Faut se mêler sans s'en mêler. Les lacets, lacets, ces choses sans se lasser. Des choses se hisser de la mêlée.
C'était « Faut pas se mêler » du groupe « Mes souliers sont rouges ». Voilà, bon, ce matin, alors que je n'avais pas encore mis un pied au studio, j'étais déjà interpellée par un passant qui voulait savoir, avant même le début de cette émission, si les nouvelles étaient bonnes. Dans votre hebdomadaire, le Haut Anjou, j'ai dû lui demander de patienter, il fallait que je me penche dessus un instant avant. Le Mayennais n'est pas toujours patient, et pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, sachez que le Haut Anjou est disponible en kiosque chaque vendredi. J'interviens le lundi, moi, surtout pour les retardateurs. Retardataires. D'ailleurs, allons-y. En une, on nous emmène à la Rouaudière où des agriculteurs s'élèvent contre un projet d'agrivoltaïque mené par la société CARE. Un projet agrivoltaïque, c'est un projet qui mêle production électrique et production agricole. Et dans ce cas précis, le projet prévoit de faire paître des bovins en dessous des panneaux. Il s'agirait du premier dans le secteur. Projet comme celui-ci, à première vue, cela ne vous semblerait pas une mauvaise idée. Eh bien, Alexandra Coursier, jeune agricultrice, dit bien ne pas s'opposer, elle, à l'agrivoltaïque, mais regrette que ce projet soit utilisé sur des terres cultivables qui, à l'avenir, ne pourront être que des pâturages. Ensuite, cette semaine, dans les colonnes du Haut-Anjou, une question plus de société. Après les scandales autour de l'abbé Pierre, Emmaüs en Mayenne et son président Jacques Beauvallet veulent perpétuer le travail fait par la communauté dans la sérénité, sans nier les agissements de l'abbé Pierre. Les affiches et représentations de l'abbé Pierre sont actuellement recouvertes ou détachées et seront très certainement remplacées par des phrases représentant davantage les valeurs de la communauté. Jacques Beauvallet raconte qu'il s'est avant tout engagé pour la cause et que c'est cette dernière qu'il est aujourd'hui importante de continuer à soutenir. Et voilà les deux titres à la une. Les actualités du Haut-Anjou sont disponibles en kiosque, mais aussi en version numérique sur Internet. Et alors, on continue ensemble cette émission. Et alors, quand on dit que l'appétit vient en mangeant, sachez qu'il peut venir aussi en allant au théâtre, enfin au théâtre des Ursulines à Château-Gontier, au Carré, puisque chaque soir de représentation, le restaurant Racine vous invite à boire un verre ou à manger avant ou après la représentation. Ça fait maintenant un an que Jérôme et Thomas ont ouvert. J'ai été prendre des nouvelles et toutes les nouvelles qu'on me donne, eh bien, quand elles valent la peine, je ne les garde pas pour moi. Allons-y, on se met à table ensemble. Jérôme, Thomas, merci à tous les deux de m'accueillir. On s'est rencontrés il y a maintenant un an. Le restaurant allait bientôt ouvrir dans l'enceinte du Carré à Château-Gontier. Un an du restaurant Racine, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Nous sommes ouverts tous les soirs de représentation du Carré pour servir à manger et à boire au public. Eh bien, donc c'est un bilan très positif pour nous. C'était une belle aventure. Donc, on a démarré à deux avec Thomas. Pauline nous a rejoint en cours d'année. Et ça a été très riche. Donc, nous, on fait à manger pour les équipes artistiques qui sont accueillies ici et qui présentent leur spectacle. On fait à manger pour l'équipe du théâtre. Et on propose donc des menus pour le public, aussi des petites choses telles que des planches, des tapas, des choses faciles à manger. On a l'impression que le bouche-à-oreille a fonctionné assez rapidement, à tel point que depuis janvier 2024, on est quasi complet. Chaque soir, on a pour l'instant refusé personne, mais c'est quand même bien mieux de réserver avant pour être sûr d'avoir une place.
Thomas, le principe du restaurant Racine, c'est qu'il valorise des produits bio et surtout du local.
On va aller vers des producteurs et productrices vraiment dans les environs. Avant de commencer la journée, on prend le camion et on va faire le tour. On passe par chez Cornu, par Justine pour Justin Neuf, et on passe aussi beaucoup par la Biocoop avant d'arriver ici avec tous les produits qui vont nous servir à cuisiner pour le soir. Donc c'est local, c'est frais et c'est bio.
Effectivement, j'ai cru comprendre que lorsqu'une épicerie ou même un restaurant comme le vôtre s'engage dans du local, ce dont on n'a pas forcément conscience, c'est que pour vous, ça représente réellement du temps supplémentaire et un travail supplémentaire pour aller vous rendre chez les différents producteurs pour commencer, pour vous en l'occurrence, à cuisiner.
Oui, c'est de l'énergie, c'est du travail en amont. J'ai vraiment souvenir pour une panna cotta au kiwi où on avait... si je dis pas de bêtises, 4 fournisseuses dessus. La personne pour les kiwis, une personne pour le lait, pour les œufs et pour la crème également. Et à la fois, on est très content de proposer un dessert qui fait travailler des personnes qu'on côtoie, des personnes qu'on connaît. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de valoriser et de mettre en avant, qu'on va essayer de faire encore un peu plus cette année sur cette cuisine.
Pour l'auditeur de l'autre radio qui ne connaîtrait pas du tout encore la cuisine du restaurant Racine, comment est-ce qu'on peut la définir ? J'aurais tendance à dire que c'est une cuisine déjà plutôt créative.
Merci, en tout cas on essaye. Le sous-titre de Racine, c'est cuisine vivante. On part vraiment du produit et donc de qu'est-ce qui est disponible à la saison. On part des produits avant de partir de la recette, quoi. On ne se dit pas, tiens, on a envie de faire des tomates farcies en février, mais on va interroger nos fournisseurs, fournisseuses, notamment les maraîchers qui ont travaillé pour savoir c'est quoi les légumes disponibles en ce moment. Et à partir de là, on va élaborer des recettes, soit des choses qu'on a déjà faites, soit on va se creuser notre mémoire de gourmet. Donc je dirais que c'est un petit peu ça notre ADN. On essaie aussi d'inciter à réduire un petit peu la consommation de viande et en alternant des mois où le repas va être végétarien pour tout le monde, à des mois où il y a de la viande et des mois où il y a du poisson. Donc c'est un petit peu près notre fonctionnement.
Souvent, on est ouvert à partir de 19h pour le spectacle qui va être à 20h30. La réservation se fait toujours auprès de la billetterie du Carré qui communique en direct avec nous. Nous, on est très heureux d'accueillir les gens dans ce cadre qui nous est offert par le Carré. Ça peut être avant, après la représentation. Si malheureusement, vous n'avez pas pu avoir de place pour la représentation, ça peut être pendant la représentation aussi.
Le public du restaurant Racine, c'est finalement le public du Carré. Donc j'imagine qu'il y a des profils très différents chaque soir selon la représentation.
Ce que je trouve intéressant en ayant fait cette première année, c'est qu'on commence aussi à avoir des habitués, des personnes qu'on commence à voir un peu plus régulièrement. Et après, sur ces questions de public, on a un public assez différent sur chaque spectacle, avec des habitués. On a aussi des habitués du comptoir qui viennent boire un coca en fin de représentation. Et c'est agréable de sentir un peu ce mélange entre visages connus et visages qu'on découvre, des gens qui viennent spécifiquement au Carré parce qu'il y a telle ou telle personne, telle ou telle compagnie, tel ou tel concert. Ça fait un endroit qui vit. On a des bières aussi, on a une offre assez intéressante. Donc on voit des couples, qu'est-ce que tu goûtes ça? Moi je goûte ça. Et après ça va vouloir goûter les autres, etc. Ça vit.
Bon, et alors, la toute première du restaurant Racine, c'est très bientôt, là, maintenant.
Pour venir manger au restaurant Racine, c'est à partir du 11 octobre, vendredi 11 octobre, donc premier spectacle de l'année au couvent des Ursulines. Et là, vous pouvez venir dès 19h vous attabler au restaurant Racine et on fera des tomates farcies au mois d'octobre.
Et donc, il y a un menu qui change régulièrement.
Notre menu, c'est un entrée plat dessert unique avec toujours une option végétarienne qui change tous les mois.
Vous écoutez l'Agité du local, l'émission quotidienne de l'autre radio, le 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Et chaque émission se termine avec une chronique et aujourd'hui c'est celle de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Frédéric Benoît, alors de quoi vous allez nous parler aujourd'hui?
Bonjour Margot, aujourd'hui je vais vous parler de l'identité, donc I comme identité. Alors l'identité c'est une notion qui n'est pas facile à cerner parce qu'elle est utilisée à différents niveaux. Il y a d'abord l'identité comme une affaire personnelle qui renvoie à la quête de soi, à une définition du qui suis-je. Il y a aussi l'identité comme repère social. C'est par exemple la question de l'égalité femmes-hommes dans le monde du travail. Il y a l'identité comme critère collectif, l'identité revendiquée en tant que communauté. Alors pourquoi parler aujourd'hui de l'identité en tant que Ligue de droits de l'homme ? Alors en fait, plus que l'identité, je vais parler de la crise identitaire. La crise identitaire qui est au cœur de nos tensions actuelles. Est-ce que cette crise identitaire n'est pas alimentée et utilisée par des idéologues, appelons-les comme ça, que la Ligue des droits de l'homme combat avec force?
Alors est-ce que vous pouvez être plus explicite?
Oui, en effet. Alors, un exemple. Lors des dernières élections européennes, le président d'un petit parti écrivait sur son blog politique « Défendons nos traditions, notre identité, notre civilisation et foutons l'islam hors d'Europe. » Bon, tout le monde reconnaîtra dans ses propos un leitmotiv cher aux idées d'extrême droite. Nous sommes là devant une approche qui met au centre de toute politique la légitimité d'exclure certaines personnes en fonction de critères identitaires. Dit identitaires. Hein. Alors sont concernées le plus souvent les personnes étrangères jugées différentes, qui ne correspondent pas à une prétendue culture nationale. Exclure certaines personnes d'un droit est présenté comme la condition pour l'assurer au reste de la population. Population qu'on va dire population de souche, population normale. Cette approche vient légitimer, vient faire le lit du racisme et des discriminations. Alors, pour nous, c'est insupportable. C'est la négation absolue de ce que porte la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, dont je veux relire ici l'article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Bon, ça paraît clair quand même. Alors, on assume ce que l'on est. Dans notre pays, dans notre continent, sur notre terre, c'est une déclaration qui a été signée par l'ensemble des nations en 1948. Alors, à contrario de ce texte, ce qui caractérise les idées d'extrême droite, c'est de penser chaque question au travers d'un prisme selon lequel les droits fondamentaux ne sont pas pour toutes et tous. C'est vouloir une société qui pense l'accès aux droits en partant de qui n'est pas légitime à en bénéficier. En général, comme je l'ai dit, sur la base de critères identitaires qui excluent.
Et comment alors ces idées arrivent à séduire ?
À mon avis, deux choses. D'abord, le désir d'appartenance fait partie de la construction mentale de l'être humain. L'imaginaire commun est l'un des fondements des groupes humains. Les représentations identitaires sont pour les groupes eux-mêmes des principes de référence. C'est l'exemple de notre roman national, avec ses héros, Vercingétorix, Jeanne d'Arc, les poilus de 14, etc. Même si, il faut bien en prendre conscience, l'image que se fait une communauté d'elle-même est toujours une vision déformée. Elle ne correspond pas à l'histoire réelle. Ben, elle n'en joue pas moins un rôle de ciment social. On a besoin d'appartenir à. Bon, à cet égard, j'ai cité Jeanne d'Arc, icône emblématique de parti d'extrême droite, parti qui oublie par ailleurs d'évoquer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait bien partie de notre histoire tout de même. Sans doute parce que cette déclaration affirme que les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais deuxième chose plus grave, si je puis dire, ce sont les précarités que produisent les politiques libérales, où chacun, par définition, doit trouver par lui-même sa place dans la société en fonction de ses capacités. Vous savez, c'est le fameux « traverser la rue », sous-entendu, pour trouver un emploi. Et ça laisse à penser qu'en excluant certaines personnes, il y aurait davantage de place pour les autres. Autrement dit, et c'est abondamment relayé au sein des idées véhiculées par certains partis, si je supprime ceci ou cela aux personnes étrangères, je bénéficierai de plus et plus facilement. C'est l'ironie que j'aime pas les étrangers qui viennent manger le pain des Français, d'un humoriste des années 60 qui dénonçait le racisme quotidien.
Mais alors, Frédéric Benoît, comment changer les mentalités ?
Eh ben, on ne peut pas changer les mentalités. Bon, j'exagère, c'est dit un peu brusquement, mais c'est un fait. Non, on ne peut pas changer les mentalités. Bon, la Ligue des droits de l'homme œuvre chaque jour, et en particulier auprès des jeunes, par nos interventions dans le cadre scolaire. Pour les adultes, ouais, comment faire ? Il faut une boussole. La boussole que donne la Ligue des droits de l'homme, c'est le droit. La Ligue des droits de l'homme se bat quotidiennement pour l'universalité des droits, parce qu'il s'agit aussi des droits pour tous. Donc nous sommes méfiants à l'égard de lois qui excluent. Le droit est l'outil garant de toute discrimination, de toute forme de rejet de l'autre, qu'elle relève du sexisme, de l'homophobie, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, de toutes les formes de racisme, du rejet en raison de la couleur de peau, etc. etc., etc. Nous ne faisons que demander l'application de ce que disent tous nos textes fondamentaux, comme l'article 1er de notre Constitution. Je cite « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. » Alors comment changer ? Non, je le disais, on ne change pas. On va convaincre les gens qui sont convaincus et on ne va pas changer les mentalités de ceux qui ne veulent pas en changer. Alors il faut se battre en termes de droit. Il faut parler du droit. Et je reviens sur cet exemple de tout à l'heure à propos de ce chef de parti qui écrivait sur son blog qu'il fallait mettre l'islam hors d'Europe. La Ligue des droits de l'homme a porté plainte en mai 2024 pour provocation publique à la discrimination, à la haine à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une religion déterminée. Ça, c'est l'intitulé de la plainte. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet de Paris. Bon, c'est pas grave, on recommence. La Ligue des droits de l'homme a donc déposé une plainte avec constitution de parti civil en août 2024. Donc c'est une affaire à suivre.
Merci beaucoup Frédéric Benoît. Je rappelle que vos précédentes chroniques de votre abécédaire, puisque vous faites un abécédaire, sont disponibles en podcast sur le site l'autreradio.fr. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, l'émission s'arrête ici. Merci à Christophe et à Gullivan du groupe Mes Souliers sont Rouges d'avoir partagé cet entretien. Merci encore à Frédéric Benoît. Et alors, la programmation de l'autre radio ne craint ni l'automne ni le froid. Ça continue toujours sur nos ondes. Et chaque lundi, votre soirée commence à 19h avec Solénoïde. Et si on a plutôt tendance à se réfugier très tôt chez soi pour profiter d'un peu de chaleur, eh bien, cette émission nous emmène quand même un peu en voyage. Et c'est un voyage sonore et musical qui sera d'ailleurs suivi à 20h de la discothèque. Et votre votre soirée ne s'arrête pas là, puisqu'à 21h, c'est l'aléatoire sur l'autre radio. Voilà, moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de la JT du local. Nous serons avec Stéphanie Montebran, coordinatrice de la Maison des aidants, qui vient au studio pour nous parler de la situation des aidants familiaux et pour nous parler du grand forum qui aura lieu à l'espace Colmont à Goron. D'ici là, faites simple, comme un début de semaine, mais faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh ben, c'était bien, hein.